Sur Radio Campus Tours, bienvenue si vous nous rejoignez, vous écoutez La Méridienne et aujourd'hui avec moi en studio, trois invités. Bonjour Marion. Bonjour Céline. Et bonjour Léa. Alors mesdames, vous êtes venues ici pour nous présenter le TEDx Université de Tours. Alors il me semble, Céline, que tu es la présidente de cette association. Alors.
Exactement, donc nous sommes l'association de l'appel à idées. Et nous organisons le 15 février prochain la deuxième édition de l'événement TEDx Université Tours. Donc une journée de courtes conférences facilement mémorisables, impactantes, compréhensibles. Et puis c'est surtout avant tout un moment de rencontre, d'échange et de partage entre toutes les personnes présentes.
Alors deuxième édition, ça veut dire que l'année dernière ce projet a été inventé je crois à l'initiative d'étudiants de l'IUT de Tours. Alors est-ce que tu veux revenir Céline sur la genèse de ce projet ?
Oui bien entendu, alors deux étudiants, donc moi-même et Thomas Garnier étions en DUT information communication à l'IUT et dans ce contexte-là nous avions pour mission d'organiser un projet sur lequel nous avions matière à communiquer et petit à petit de fil en aiguille nous avons entendu parler, nous connaissions déjà mais nous nous sommes de plus en plus intéressés aux événements TEDx, donc ces événements qui existent ou sur lesquels on pourra revenir juste après et nous avons demandé l'autorisation d'organiser le TEDx, l'événement TEDx Université Tours. Nous avons obtenu une licence et de cette obtention, nous avons pu organiser le premier événement.
Alors comment ça marche pour obtenir une licence TEDx ? Quels critères il faut remplir ? Sachant qu'à Tours, il y a déjà un autre TEDx, donc est-ce qu'on peut en faire autant qu'on veut dans une même ville ?
Non. Alors peut-être revenir sur ce que sont vraiment TED et TEDx, puisqu'il y a une différence entre les deux. Donc nous avons depuis plus de 35 ans, il y a 35 ans, un architecte a constaté qu'on écoutait tout le temps les journalistes et jamais les scientifiques, les chercheurs ou les experts, alors que c'est eux qui sont à la source première de l'information. Et donc de ce constat-là, cet architecte américain a décidé d'organiser des cycles de conférences très courtes, donc entre 5 et 18 minutes, puisque c'est le temps de concentration d'une personne, et il a formé les intervenants pour les aider à acquérir certains codes journalistiques pour rendre leur conférence facilement compréhensible, mémorisable, impactante pour un public néophyte. Et donc, il a appelé ces cycles de conférences TED pour technologie, entertainment, design, les principaux thèmes abordés lors de ces interventions. Et l'idée étant vraiment de partager des connaissances, du savoir, des idées, des expériences gratuitement au plus grand nombre de personnes possible, puisque les conférences sont toutes captées et ensuite disponibles sur Internet. Et l'idée étant vraiment dans un but non lucratif, ils se sont dit ce serait vraiment intéressant qu'un plus grand nombre de personnes puissent faire le même travail que nous. Et donc depuis 10 ans, cet organisme, TED aux États-Unis, délivre des licences à des groupes de projets indépendants partout dans le monde pour qu'ils organisent sur le même modèle leur propre événement à échelle locale. Et ces événements, on va les appeler les TEDx, le X faisant référence à un événement à la fois organisé indépendamment de l'équipe TED et faisant également référence aux X événements organisés dans le monde.
Voilà, merci Céline, mais quant à savoir s'il y a un nombre limité d'événements TEDx dans une même ville.
Et donc, non, il n'y a pas forcément un nombre précis, c'est plus l'équipe TED aux États-Unis qui va juger pour voir est-ce qu'on est vraiment sur la même cible, est-ce que ce ne serait pas trop répétitif d'avoir deux événements côte à côte. Nous, dans notre cas, on a TEDx Tours qui est vraiment sur une cible au niveau de la population de la ville entière, et nous, on est vraiment aussi principalement les universitaires.
Donc peut-être que tu veux préciser quel public précis vous allez toucher, parce que université, on pense évidemment aux étudiants, mais pas seulement peut-être.
Oui, on a aussi tout ce qui va être les institutionnels, les partenaires, les enseignants-chercheurs et tout le personnel encadrant l'éducation, la formation au sein de l'université.
Alors l'an dernier, ça s'est passé comment, votre première édition? Il y a eu combien d'interventions? C'était qui? Comment on fait un casting, entre guillemets, des intervenants?
Alors l'année dernière, nous avions 7 intervenants que l'équipe programmation a recrutés sur différents critères. On cherche à avoir on cherchait principalement à avoir que des gens de la ville de Tours, que des intervenants tourangeaux. Et puis nous cherchons à avoir une diversité à la fois au niveau homme-femme, une parité, et puis une diversité au niveau des thèmes abordés, puisque nous souhaitons avoir les différentes thématiques enseignées à l'université soient abordées lors de cette soirée de conférence, de sorte à ce que chaque personne puisse se retrouver, puisse apprécier l'une ou l'autre des interventions. Et nous avons aussi eu pour ambition d'avoir à la fois des enseignants, des chercheurs, des professionnels, mais aussi des étudiants universitaires.
Alors peut-être que vous voulez donner un exemple sur la participation étudiante, parce que là, peut-être que certains de nos auditeurs se disent « Oula, c'est que des chercheurs, des doctorants, des gens très pointus dans leur domaine. » Et est-ce qu'en tant qu'étudiant, donc en tant qu'apprenant, même si on est en chercheur, on est toujours apprenant, est-ce que quelle place ils peuvent potentiellement avoir dans ce TEDx?
Alors oui, bien entendu. L'année dernière, par exemple, au niveau où nous avions Lucas Bonny, qui a été intervenu pour parler de pédobiologie, de l'étude des sols et notamment l'importance des vers de terre. Et il a également partagé son expérience, puisqu'il a fait un long voyage au Népal, au Vietnam, pardon, où il a pu se rendre compte justement de l'importance des vers de terre pour l'environnement. Et en deuxième intervenant étudiant, nous avions Louis Barbier, qui est un étudiant qui a fait de la sociologie à l'université, qui est aussi allé en communication, et que vous avez peut-être remarqué, puisqu'il est souvent en ville, il est amputé d'une jambe, et donc il a partagé son histoire et aussi sa vision du handicap, parce que pour lui, le handicap n'est pas du tout quelque chose d'handicapant. C'est quelque chose qui le valorise et qu'il valorise au quotidien.
Voilà, et alors comment ça se passe? Est-ce que c'est vous qui repérez les potentielles personnes qui pourraient se prêter aussi au jeu de l'intervention TEDx? Ou est-ce que vous avez aussi des personnes qui se proposent spontanément? Parce que c'est quand même très différent, une intervention TEDx et un colloque, c'est pas du tout les mêmes formats, on cible pas le même public, les contraintes ne sont pas les mêmes. Alors comment ça se passe?
Alors on a les deux cas. On a des personnes qui spontanément, en voyant nos communications sur les réseaux sociaux, vont venir nous contacter en nous disant tiens, j'ai telle idée que j'aimerais bien partager. Et puis on a aussi, comme on sait que tous les ans on a un événement TEDx, on fait de la veille médiatique, technologique, scientifique, philosophique aussi, sur tous les sujets dont on cherche à découvrir quels vont être, à mettre en avant quels vont être les prochains débats sociétaux qui vont apparaître sur la scène au niveau mondial même. Et donc on cherche à la fois à trouver quels vont être les prochains problèmes, pour essayer d'aborder des solutions en trouvant les meilleurs experts au niveau national.
Alors là, par curiosité, mesdames, quelle grande thématique, quels grands débats sociaux peut-être vous avez identifié pour la prochaine édition, sans dévoiler évidemment, puisque ça reste jusqu'au dernier moment une surprise ou un secret. En tout cas, quelles sont les thématiques qui pourraient être abordées?
Alors l'année prochaine, nous allons parler notamment des antibiotiques, les bactéries résistantes aux antibiotiques. Et également, nous allons parler de culture, et notamment sur l'idée de pérenniser la culture. Est-ce qu'elle peut évoluer? Est-ce qu'elle doit être figée? Ainsi que d'environnement, évidemment, dans le cadre et notamment des ressources marines qu'on ne connaît pas encore, mais qui pourraient être exploitées à des fins thérapeutiques et médicales.
Voilà, donc merci Céline, on le rappelle, présidente de l'appel à idées. Donc je me tourne vers Marion et Léa, parce que j'ai cru comprendre que vous fonctionnez par pôle aussi, par équipe. Donc j'aimerais savoir, mesdames, vous, quel est votre rôle chacune dans ce projet TEDx Université de Tours?
Du pôle expérience. Le pôle expérience, ça va être le pôle qui va s'organiser, qui va s'occuper de tout ce que le participant va vivre en dehors des conférences. Très important, c'est pour ça à la base que le participant. Mais autour, il va falloir qu'il soit accueilli, qu'il promène dans le couloir. Il faut savoir que cette année, on a 600 personnes, 600 personnes, ça fait un flux de participants important. Il faut pouvoir faire circuler ces gens pendant l'entracte, pendant les pauses, pour qu'ils ne s'ennuient pas et qu'ils aient une expérience et qu'ils ressortent du TEDx avec les conférences. Et aussi une nouvelle manière de penser, d'éveil des consciences, quelque chose qu'il aura vu et qu'il pourra appliquer au quotidien. Ça, pour la partie fooding, par exemple, on essaye d'avoir de la nourriture qui provient de producteurs bio, locaux, dans un environnement de 30 kg. Végétarien au maximum, cas pas vegan, mais végétarien. Donc c'est vraiment l'idée de transformer un petit peu les habitudes des participants. Ils ressortent en se disant « ce houmous végétarien était vraiment délicieux. Je vais refaire le même à la maison. » Quitte en fait même à changer les habitudes profondément, je pense aux périodes de fête où c'est un peu foie gras et saumon. On peut les amener à monter à quelque chose de bon, pas forcément en étant local et bio. Ce ne sera plus les fêtes à ce moment-là. Un pack. Il y a toujours. Donc c'est vraiment l'idée de leur apporter quelque chose de différent, une expérience. Ça veut dire aussi avoir des petites... Nous, on appelle ça des capsules. Les capsules, c'est cette espèce de bulle que les participants vont pouvoir tester, aller voir, qui va révéler leurs cinq sens. Donc, le goût, pour le toucher, on va avoir aussi des expériences. La vue, j'ai vraiment l'ouverture des sens. Et les parties. Sans dévoiler non plus les expériences qu'il y aura en février, on peut parler peut-être d'expériences auditives. Les participants vont écouter à 5-6 minutes à écouter seulement, à vous, et réagir ensuite à ce qu'ils ont entendu.
Bon, et bien merci. Donc je me tourne vers Marion.
Alors moi je fais partie du pôle communication où on va être 5 voire 6 personnes dans ce pôle. On a différents domaines pour communiquer sur TEDx Unif Tour, notamment les réseaux sociaux, le blog, les newsletters, ça passe aussi par ça, les relations presse. Et en fait tout commence par la communication parce que dès que les personnes vont découvrir rien que TEDx Université de Tours, ça va passer par des petites attentions pour ces personnes, que ce soit par les réseaux sociaux, par les newsletters qui sont personnalisés pour chacune des personnes qui vont prendre leur place. Sur les blogs, on fait là aussi, comme Céline l'explique, des veilles médiatiques pour essayer de faire des listes sur des thèmes bien précis de TEDx, et notamment sur l'environnement, sur la technologie, sur certaines difficultés dans le monde. On essaye vraiment de montrer toute l'ouverture que TEDx peut posséder au travers de cette communication, mais en étant très personnalisé pour chacun en même temps.
Est-ce que peut-être tu veux donner un exemple concret en utilisant l'événement de l'année dernière d'un conférencier par exemple qui t'a particulièrement marqué, pour qu'on comprenne bien en fait cette idée de personnaliser le plus possible?
Alors, moi, celui qui m'a le plus marqué, c'est Louis, mais c'est parce que j'adore la façon qu'il a justement de... comment je peux expliquer ça ? De travailler avec son handicap et de le montrer, de l'expliquer. Pour moi, c'est quelque chose qui a été vraiment très révélateur parce qu'il arrive très bien à s'en amuser et en même temps à montrer qu'il n'est privé d'absolument rien malgré son handicap.
est-ce que peut-être l'une de vous a envie de réagir aussi à ce qui a déjà été dit par rapport à une dernière, quelle est la conférence peut-être qui vous a le plus, qui vous a le plus marqué?
Moi, dans l'un des talks que j'adore, justement, je vais faire un petit coucou aux gens de TEDx Tour, de l'autre équipe, puisque l'année dernière, ils ont fait intervenir Maya Mazorette, et dont sa vidéo a fait plusieurs milliers de vues en quelques jours, quelques semaines. Donc c'est une chroniqueuse, il me semble, qui parle notamment de la sexualité et qui va lever les tabous et vraiment inciter sur l'épanouissement de chacun dans sa sexualité et non pas appliquer des formats préfaits ou s'obliger à rentrer dans des cases, mais vraiment à découvrir qu'est-ce que chacun a envie. Et donc, oui, cette vidéo, c'est l'une de celles qui m'a le plus marquée. Mais donc, pour TEDx Tour.
Moi, pour la première édition qu'on a faite l'année dernière, c'est pas vraiment les talks en eux-mêmes, mais bien sûr, on peut les voir et les revoir. Mais en fait, c'était vraiment surtout cet aspect, finalement, en tant que bénévole, on se balade un peu partout. Et pendant les talks, eh ben, on va aller vérifier que les personnes sont bien. On va aller voir ceux qui vont passer après, les conférenciers d'après, pour voir s'ils sont stressés, pour leur donner le lot. En fait, c'est cet aspect-là, moi, qui m'a le plus intéressé. Désolée, ça répond pas vraiment à la question.
Mais si.
Si, c'est l'aspect humain, en fait.
Oui, c'est ça.
Et je pense que c'est quelque chose de fort au niveau de l'association, c'est qu'on est... Oui, on organise un événement, mais pourquoi on organise ça? C'est parce qu'on prend du plaisir à être ensemble, on prend du plaisir à échanger, à partager. Chacun a des expériences différentes, et c'est pour ça... C'est notre force, je pense, au niveau... On est une association étudiante, mais on n'est pas une association étudiante qui regroupe des étudiants que
d'un domaine.
Que d'un seul domaine. Et on est une association étudiante qui regroupe des gens de toutes les composantes de l'université, et donc avec des compétences, des envies, des passions différentes. Et c'est ce mélange à la fois des connaissances, des capacités et des envies de chacun qui crée notre force, notre puissance. D'ailleurs, ce sera le thème de l'année dernière, on l'a pas encore dit, de l'année prochaine, le thème puissance. Et c'est cette envie-là, c'est cette puissance-là qu'on a, cette cohésion de groupe qu'on a envie de faire partager et de donner en tout cas quelques clés pour inciter les gens à être dans la même dynamique que nous en organisant le 15 février prochain.
Donc on voit bien, hein, Céline, présidente et experte en communication, puisque c'est la formation que tu fais. Et puis on a aussi donc Léa, master de psycho, c'est, ça fait écho aussi à ce que tu dis, toi, le souci de l'autre, d'essayer de comprendre comment il est, dans quel état d'esprit il se trouve, est-ce qu'il se sent bien ou pas, qu'est-ce qu'il fait en fait un groupe, même dans l'idée de comment marche un groupe, c'est raccord aussi je pense avec tes études. Et Marion, donc chargée de communication et de médiation, l'idée d'être dans un événement de médiation scientifique et culturelle, ça fait écho aussi je pense à ton parcours.
Exactement, oui. J'ai un parcours en licence d'histoire de l'art et d'histoire. Donc transmettre quelque chose, et encore plus avec cette ouverture d'esprit qu'on a chez TED, pour moi c'est quelque chose de très important, et c'est pour ça justement que j'ai adhéré à cette association.
C'est bien, vous nous montrez vraiment la cohérence en fait de ce qu'on fait.
C'est bien.
Je pense que de l'intérieur, vous la voyez, mais peut-être que c'est important aussi pour nos auditeurs de comprendre pourquoi c'est efficace, pourquoi ça marche en fait ce projet TEDx, et pourquoi ça crée des émules dans le monde entier.
Ouais. Et puis c'est vrai que quand on parle de TEDx, je pense que beaucoup de gens ont une vision assez biaisée, parce qu'ils vont voir soit que les vidéos qui sont disponibles sur Internet, et peut-être même des vidéos en lien avec une seule thématique. Notamment, j'entends beaucoup de personnes qui me parlent TEDx égale développement personnel, alors que c'est complètement faux. L'idée à la base, c'est de parler de technologie, de divers, technologie, entertainment, design, et de vraiment rendre accessible de la science. Et à côté de ça, les TEDx, ce ne sont pas les seuls, les organisateurs TEDx ne sont pas les seules communautés à exister au sein de l'écosystème de TED, puisqu'on a vraiment aussi une communauté de traducteurs et de transcripteurs qui permettent eux de diffuser de manière manière exponentielle, ouais. Oui, les informations. On a aussi donc la communauté des ce qu'on appelle les TED-ED, donc des éducateurs, des étudiants, des artistes qui eux vont s'assembler pour partager non pas des idées ou des expériences, mais vraiment de la connaissance, où ils vont mettre plusieurs mois à travailler sur un contenu.
La connaissance.
C'est beau.
La connaissance. La connaissance. À travailler sur un contenu. On a aussi Donc TED, donc je répète pour ceux qui rejoignent, TED, donc l'organisme principal aux États-Unis qui rassemble des scientifiques, des journalistes, des docteurs, des chercheurs, des entrepreneurs, pour les rassembler sur des semaines d'ateliers pour réfléchir sur des thématiques et pour essayer de trouver des éléments de résolution en rassemblant tous ces domaines pour trouver des solutions aux conflits qu'il peut y avoir actuellement dans nos sociétés, et notamment la préservation de la richesse de la nature en général, quoi. Donc voilà, TED, c'est beaucoup plus large que juste les TEDx.
Ah bon, bah, même les journalistes sont bienvenus, ouf, me voici rassurée. Mais comment dire, parce qu'une autre des attaques, n'exagérons rien, mais des critiques qui pourraient être formulées à l'égard de TED, c'est de dire, ah oui, mais c'est une façon de penser le monde, c'est une façon de penser les choses. Alors, est-ce que je suppose que ça peut aussi être un retour que vous pouvez avoir, de dire oui, qu'est-ce que c'est que ces gens qui veulent imposer leur façon de penser le développement du monde ou le développement de la pensée ?
Secte.
Voilà. Oui, on nous dit souvent qu'on est une secte.
Et c'est la maçonnerie de la culture.
Et les gens, alors justement par rapport à ça, si appartenir à une secte, ça veut dire appartenir à un groupe de personnes qui est dans l'ouverture d'esprit, le partage, la diversité, le débat et l'échange de différentes idées et juste l'acceptation de l'idée de l'autre. Oui, je veux bien appartenir à une secte et je pense qu'on est tous d'accord dans cette idée.
Il n'y a aucun problème.
Oui, je pense pas non plus qu'il y ait une vision, pas une vision. Penser d'une manière, en fait, au contraire, peut-être faire venir des experts de tous les domaines. Ça donne justement l'ouverture d'esprit. Plein de façons.
Et à ce propos, notamment, nous, dans le cadre de la licence TEDx Université de Tours et des licences TEDx en général, on n'a que très peu d'interdits au niveau des personnes qu'on a, des intervenants qu'on peut faire intervenir sur scène. On n'a simplement pas le droit de promouvoir des armes, l'industrie des armes, des industries pharmaceutiques. On n'a pas le droit de promouvoir une personne ou une marque. On est là pour partager des idées ou des connaissances. Et on n'a pas le droit de promouvoir des religions ou des pseudosciences. À partir de là, la diversité est large et justement, le point, ce qu'on veut faire, c'est de partager une idée d'un intervenant et que les gens puissent en débattre après et éventuellement ne pas être d'accord, mais de leur donner des clés pour qu'ils puissent construire leur réflexion.
C'est quoi, par exemple, une pseudo-science, c'est, je sais pas, le mouvement platiste, les gens qui pensent que la Terre est plate ou quelque
je
chose.
Je pense, alors je ne connaissais pas.
Pastafarisme.
Oui, le pastafarisme, c'est ça.
C'est ça. Ou tout du moins des thématiques qui s'avancent comme des sciences, mais qui ne sont pas forcément reconnues sur de manière par des scientifiques, par des experts.
Des experts qui vérifient en fait les sources, ce qui est dit en fait. Pas dire n'importe quoi, on peut pas arriver avec une idée.
Bonjour.
On sort de nulle part. J'ai une super idée.
Non.
Oui. C'est parti de cette vague médiatique aussi.
Voilà.
Non pas qui a tort, mais qui éclaire. Et ça sort de...
Est-ce qu'il y a des sources ou ce genre de choses?
Et à l'heure où on a énormément de contenu sur les réseaux sociaux qui est diffusé et ayant énormément qui sont vraiment très contradictoires et qui ne sont pas forcément justes, ça nous paraît important et notamment en tant que TEDx Université de Tours où là on est vraiment sur l'idée de partager des sciences, de faire attention à la qualité de nos intervenants et à la qualité non pas de nos intervenants mais des idées des intervenants et de s'assurer du contenu qu'ils vont partager, ouais.
Voilà, donc si jamais des auditeurs craignent encore la dérive sectaire, on peut peut-être leur dire comment on fait si on veut être bénévole au TEDx Université de Tours.
Alors, rien de plus simple, oui, parce qu'on est une équipe d'organisation, donc de l'association, mais le jour même, on ne va pas tout gérer tout seul et on serait ravis d'avoir énormément de renforts de personnes qui souhaitent rejoindre l'aventure le temps d'un week-end. Donc, ils peuvent nous contacter sur... ou Marion, tu peux partager ça peut-être ?
Oui, aussi, ils peuvent nous contacter, que ce soit sur le blog, via les réseaux sociaux, via la page Facebook, via l'Instagram. Et ensuite, ils trouvent sur le blog ou sur le site internet toutes nos adresses mail à chacun des bénévoles et à chacun des adhérents qui sont déjà présents dans l'association. Donc, ils ont juste à nous envoyer un mail. Soit on leur répond par mail, soit on les appelle comme ça a été fait pour moi 2 jours après ma candidature, si je peux dire. Donc, tout le monde est la bienvenue.
Sachant que c'est vraiment la force de notre événement, c'est de pouvoir réunir des bénévoles qui viennent de toutes les UFR, donc de toutes les filières, toutes les disciplines, etc. Et ça a été la force de l'événement l'année dernière aussi, qui avait été des lieux relais. On avait des lieux relais en fait, dans chaque pôle de l'université, pour que les personnes qui n'ont pas pu avoir leur billet ou qui ne veulent pas monter jusqu'à l'UT, il y en a, puissent quand même assister aux conférences. C'était un visionnage projeté au pôle de la fin. C'est vraiment notre force et c'est demander subventions. On va chercher des partenaires, c'est vraiment ce qu'on met en avant. C'est ce côté, toutes les UFR, toutes les disciplines sont les bienvenues. Vraiment créer une cohésion bassin universitaire entier.
Et pas seulement que des universitaires.
C'est ça.
Et Léa, tu parlais tout de suite des retransmissions qu'on a fait l'année dernière en direct. Donc là-dessus, on est assez content parce que on est la première université au niveau mondial à avoir utilisé ce principe et donc à avoir permis à toutes les composantes de l'université et de l'université d'avoir un point, un endroit, un espace pour retransmettre un événement TEDx.
Voilà, cocorico quand même, bravo. Et alors, comment dire, peut-être pour revenir sur les intervenants, les personnes qui feront leur show en fait, leur talk en public, donc c'est un exercice à contrainte, c'est une prise de parole qui est organisée quand même. Il ne s'agit pas de venir sur scène raconter ce qu'on a envie et c'est tout. Il y a des codes, je crois. Est-ce que vous avez aussi le cercle rouge dans lequel il faut se tenir,
oui.
La durée, comment vous les coachez ces personnes, parce que c'est pas évident en fait de déjà forcément de prendre la parole en public, même si on est très brillant et féru de telle ou telle autre chose, c'est pas forcément facile. Et encore moins de faire œuvre de médiation et de se mettre à portée de personnes qui ne sont pas spécialistes. Donc comment vous les accompagnez, vos intervenants ?
Eh bien, déjà dès le début, quand on les sélectionne, on leur prévient que ça va être énormément de travail. Parce que il est souvent dit que pour faire une conférence de 3 heures, on peut la commencer instantanément. Si on doit faire une conférence de 1 heure, on a besoin de 3 jours de travail. Et puis pour faire une conférence de 18 minutes, c'est plus de 60 heures de réflexion sur l'idée, d'approfondissement de nos idées, parce que chaque intervenant, il en ressort en ayant gagné, puisque l'idée qu'il avait de départ, l'idée qu'il avait, qu'il pensait partager, a été approfondie. Et donc il a appris sur lui, sur ses compétences. Et une fois qu'il a écrit, structuré son talk, on rentre dans toute la période d'apprentissage et puis de mise en voie. Donc pour ça, on travaille avec on a une équipe au niveau de l'association, les coachs, qui vont les accompagner individuellement, à la fois. Donc chaque coach est référent de un intervenant, et nous avons aussi des journées ou de rencontres entre tous les speakers et tous les coachs pour partager les idées, et puis donc pour voir, moi, mon idée en tant qu'experte océanographe par exemple, comment est-ce qu'elle va être reçue pour quelqu'un qui est un entrepreneur ou un restaurateur par exemple. Donc pour voir quelle pourrait être la réception du public estimée, et puis progresser en collectif.
Voilà, il y a des journées crash test.
Exactement.
C'est assez intéressant d'ailleurs, parce que parfois des personnes qui sont très très à l'aise à l'oral et qui n'ont aucun problème, qui donnent des cours, des CM constamment, on se rend compte qu'en fait, ils ne sont pas du tout à l'aise sur des talks si courts de 15 minutes. Des personnes qui vont être très timides, qui ont besoin d'un prompteur pour lire leur talk presque, et ben, vont être beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus vite en fait dans leur communication.
Mais on cherche vraiment à ce que, au final, chaque mot, c'est vraiment ça la force d'une vidéo TEDx, je pense, c'est que on cherche qu'à la fin, le résultat final, chaque mot doit être pertinent, chaque mot doit être important. Et donc, quand on vient à une conférence TEDx, quand on vient assister à une journée, on a vraiment accès à un contenu qui est épuré, de sorte à ne pas avoir de fioritures ou de choses qui ne pourraient parasiter la compréhension ou la réflexion qu'on pourrait se faire.
Ah bah ça restreint d'emblée les intervenants potentiels alors.
Non, parce que justement l'idée c'est qu'une personne qui a une idée mais qui sait pas comment la présenter, on va lui donner justement toutes ces clés pour la rendre, parce que les idées sont souvent géniales mais simplement mal dites, et donc on va faire en sorte de l'accompagner pour qu'il puisse gagner comme ça et pouvoir mieux partager son expérience.
Marion, tu veux réagir ? Il y a quelque chose ?
Non, non, absolument pas. Mais en effet, les idées généralement peuvent les idées généralement peuvent être floues, et on va être là justement pour aider à les construire ensemble justement, et à faire en sorte que les personnes soient à l'aise en parlant de ça, parce que c'est quand même leur domaine et on veut qu'ils soient compris de tous en fait. Donc c'est exactement ça. On a beaucoup beaucoup d'idées, beaucoup de personnes qui veulent justement parler de ce qu'ils ont envie de diffuser, mais pour autant des fois c'est flou, et on va être là pour essayer de construire tout ça ensemble. C'est vraiment la cohésion de l'équipe qui fait cette force du TED.
Ils ne plongent pas dans le grand, les accompagne si on leur apprend à nager. je dis on, mais enfin, je fais pas partie. Mais l'idée c'est aussi d'avoir des moments de détente en fait. C'est-à-dire qu'on va travailler, passer une après-midi à bosser avec le speaker, et après ils vont boire un coup, boire un café ensemble, pour avoir des moments qui sont officieux aussi, et créer cet effet de groupe et cette cohésion, ce bien-être là, on leur permet après de se sentir bien.
Bon bah si, quelque part on est un peu dans le développement personnel quand même. Indirectement, mais c'est pas le but premier.
Thank you.
faire. On est allé demander un partenariat, je pensais à ça, à Tour Métropole. Et en fait, c'était complètement emporté par les personnes avec qui on a discuté. Ils nous ont commencé à nous dire « Ah oui, vous accueillez 600 personnes, l'année dernière c'était 100, mais c'est génial. Il y a quoi comme, enfin, c'est universitaire, il faut qu'on contacte tout le bassin universitaire. Il y a 30 000 étudiants, mais si on étend ça aux apprentis, si on étend ça à tous les CFA, etc., il y a bien 40 000 personnes qu'on va pouvoir prévenir. » En fait, on s'est pris une vague dans la tête de « Ah ouais, waouh, 40 000, ça, ben, on n'a plus de place, en fait, 600, c'est tout petit. » Il nous a dit « Oui, mais c'est pas grave, parce que l'année prochaine ou les années d'après, on contacte la région, puis qu'est-ce qu'on a comme plus grande salle ?»« Ah ben, il y a le Grand Hall. » Ça fait 5000 places, le Grand Hall. Et oui, 5000 places, ça commence déjà à être pas... Je dis, mais 5000 places, mais où est-ce que vous partez, en fait?
Donc, on a une vie à côté, on est juste bénévole. Ouais, on a une vie, on a des études à mener.
Puis vous imaginez faire à manger pour 5000 personnes, là, ça commence à devenir complètement énorme, quoi. Le bio local, à mon avis, là, il marche pas.
On va créer des emplois. Voilà,
c'est ça, on va créer de l'emploi, bah, ça pourrait être intéressant.
Bah, c'est pas...
En même temps, ça veut dire qu'il y a un intérêt et une appétence, en tout cas... par le pouvoir politique, alors. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt pour eux.
C'est quelque chose auquel il faut faire attention, justement. De, que les
surtout
TEDx... Voilà. Surtout en ce moment, que le TEDx Université de Tours ne soit pas accaparé, n'est pas de couleur politique.
Oui.
Et là-dessus, on reste vigilant, notamment dans la communication.
Oui.
Et d'ailleurs, c'est aussi l'intérêt d'avoir une pluralité de points de vue parmi les bénévoles, c'est de se garantir, entre guillemets, en tout cas d'être vigilant au fait que bah, si on n'a pas tous à la base les mêmes points de vue, les mêmes aspirations, au moins on a quand même plus de chances de ne pas se faire avoir, entre guillemets, par une tendance plus que par une autre.
Exactement.
Et à ce propos, justement, il y a donc l'équipe TED aux États-Unis a proposé un format beaucoup plus léger, accessible à tout le monde et pas juste un gros événement TEDx. Ils appellent ça les TED Circles. Donc, c'est organisé sur une soirée, rassembler des gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Et puis, sur un format très convivial avec ça peut être entre 5 et 15 personnes peut-être, regarder, visionner une vidéo TED et puis en débattre ensemble dans la soirée, dire bah voilà, ça peut être sur des thématiques liées à l'environnement, à la biotechnologie, à plein d'enjeux ou de thèmes abordés sur le féminisme, par exemple, et puis en discuter pour échanger. Et donc, c'est vraiment un format que chacun peut, tous ceux qui nous écoutent d'ailleurs, peuvent organiser chez soi, très simplement en allant sur la page, la page TED Circles de TED.
Ah, bons entendeurs. Et alors, aussi, ce qu'on voit, c'est que le TED, ça contribue, enfin... me dire si vous n'êtes pas d'accord, et tant mieux si vous ne l'êtes pas, ça rend glamour quelque part le savoir, parce qu'il y a quand même une idée que la réflexion, savoir, chercher, c'est fatigant, c'est poussiéreux, et donc là quand même l'idée de réfléchir, ça prend du temps, ça prend plus de temps que d'allumer une télé ou quelque chose comme ça. Donc en fait, vous proposez quelque chose qui implique différemment les gens, et voilà, il y a un côté festif, donc finalement ça cohabite, on arrive à faire de l'intellectuel intéressant et sympa, et pas forcément rébarbatif et poussiéreux.
Ça cohabite, et puis ça me fait penser aussi, en fait, chaque TED Talk en général sont faits par des personnes qui écrivent des livres derrière, et des livres qu'on peut vendre, qu'on retrouve en librairie. Donc oui, ça donne un accès à la culture qui est plus facile, peut-être, de passer 15 minutes devant TED Talk pour apprendre quelque chose. Mais derrière, on va quand même amener les gens à aller réfléchir un peu plus loin. Pas juste dire « Ah, c'était sympa, allez, bah, je vais me faire... » Non, c'est vraiment « Ah bah tiens, je vais peut-être acheter un livre sur l'éducation non-violente. » Et ils vont être dans une recherche, mais active, peut-être plus. Ensuite, après... On espère. On débute.
Et même au niveau de la communication, on essaye non seulement de faire venir les gens à notre événement, au 15 février, donc le 15 février, mais aussi de les inciter à justement aller sur la plateforme TED.com pour découvrir d'autres idées qui ne sont pas justement liées que à la scène nationale, mais qui viennent des quatre coins du monde, et donc avec des gens qui ont des cultures différentes et donc des visions des choses différentes. On essaie vraiment de leur dire oui, vous venez à notre événement, allez à TEDx Tour, allez à TEDx Orléans qui avait lieu il y a quelques semaines, aux autres événements, mais aussi allez visionner toutes ces vidéos et renseignez-vous.
C'est ça. Partager, regarder, diffuser, même ça peut être pendant qu'on travaille, pendant qu'on fait à manger, comme tu as dit, Léa. Moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai connu TED. En plus, c'était par des TED qui venaient d'Amérique. C'est comme ça que j'ai connu ceux qui se faisaient en France. Donc, on amène les gens, et notamment sur le blog et sur le site internet, à partager d'autres TED d'autres pays pour montrer que c'est pas que national. En effet, c'est partout dans le monde.
Il ne faut pas se leurrer, je ne pense pas qu'on réinvente non plus complètement la culture. Je pense que tout ce qui est dit, même si jamais c'est plein d'innovations, même si c'est plein d'idées nouvelles pour aborder un sujet, c'est des sujets et des thématiques qui existent depuis toujours. Donc oui, ce n'est pas dans une recherche poussiéreuse aux archives municipales qu'on va aller le chercher, mais ça reste des thématiques et des sujets qui existent depuis.
J'entends bien pour les thématiques, mais c'est plus la forme. En tout cas, qui peut, même si ça fait quand même quelques années que ça existe maintenant, le TED, mais ça reste peut-être inédit, cette façon d'accéder au savoir et peut-être de pouvoir interpeller aussi la personne qui intervient. C'est pas évident, forcément, toujours.
Et c'est même devenu le format TED, TEDx est même devenu quelque chose de répandu, dans le sens où on va avoir des enseignants qui vont dire je voudrais un exposé à la mode TED ou à la mode TEDx. Et donc les gens vont tout de suite imaginer ce qu'on va mettre derrière, c'est je commence en parlant de mon histoire personnelle, en racontant une anecdote, je fais une petite blague et ensuite j'introduis un sujet scientifique. Et alors oui, je pense que c'est peut-être résumé de manière très synthétique et sûrement de manière appauvrie, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose de plus profond et que c'est pas juste raconter une blague, mais c'est intéressant de voir à quel point les TED et le format TED et TEDx est devenu un mythe.
Oui, j'avais une prof d'anglais qui nous avait demandé ça, de faire la manière d'un TED Talk. Du coup, j'avais découpé un petit tapis rouge et je m'étais mise dessus. Je tenais à peine mes deux pieds dessus.
J'avais mis les LED derrière.
Voilà, exactement, j'avais le t-shirt TEDx University et tout. Ouais.
Si on a une restriction budgétaire, on t'appellera pour se faire ça.
Exact.
Mais en fait, on est sur cette vulgarisation qui est très importante aussi chez TED, en fait. Vu qu'on a pas mal de domaines qui sont touchés, tout le monde doit pouvoir comprendre, et on a cette vulgarisation du sujet qui est très importante parce qu'elle permet justement de le diffuser partout et pas que au national.
Et vulgarisation, et même médiation. On va pas forcément essayer de vulgariser dans le sens simplifier, non. On va plutôt essayer de garder le même contenu, mais de trouver des angles d'approche ou des manières de le tourner qui vont permettre de ne pas le simplifier.
C'est ça.
On va pas forcément vulgariser, on va essayer de juste le médiatiser, dans le sens le rendre accessible.
À tout le monde, oui.
Alors on voit aussi, un des enjeux, c'est l'art de la parole, l'art oratoire, comment on capte la bienveillance. Mmh. Et donc, évidemment, ça c'est indispensable si on veut véhiculer une idée. Si on sait pas parler à l'antenne, en public, c'est bien difficile de diffuser une idée. Et donc, à votre avis, parmi vos intervenants, parmi vos bénévoles, est-ce que toutes les personnes qui ont du mal à accéder à la parole sont représentées ?
Au sein de l'équipe ?
Oui.
Comment est-ce qu'on les valorise ? C'est ça ? Non.
En fait, on cherche leurs compétences. On regarde où est-ce qu'ils sont bons, où est-ce qu'ils sont à l'aise, si c'est pas dans la parole, mais que c'est dans le manuel. On a un, par exemple, qui travaille sur le matos, qui est pas forcément quelqu'un qui est très à l'aise à l'oral, et qui va nous aider dans le matériel à construire, à fabriquer, selon sa compétence, selon là où il est doué, en fait, là où il se sent doué plutôt, où il se sent à l'aise. Mmh. Et pas forcément venir parler à la radio, c'est pas forcément le truc qui me faisait complètement...
Moi non plus.
Enfin si, c'est intéressant, c'est super.
Mais c'est pas dans notre habitude, en fait.
Non,
simplement.
On va chercher plutôt à valoriser la personne dans son domaine de prédilection, à l'épanouir. Mmh. Et puis comme ça, et petit à petit... en fonction de ses envies, bah, je suis spécialiste là-dedans, mais j'aimerais bien aller vers tel autre domaine. Et donc, petit à petit, peut-être qu'une personne qui est dans l'équipe programmation, donc qui va être dans le coaching, etc., va glisser vers l'équipe partenariat et aller faire des démarches vers d'autres partenaires. Donc, essayer d'élargir aussi ses compétences.
Alors, je pensais aussi peut-être, parce que les intervenants, vous l'avez dit, hein, les sources sont vérifiées, n'importe qui ne peut pas raconter n'importe quoi. Mais est-ce qu'on peut pas imaginer aussi que parmi les experts, on peut avoir par exemple des personnes dans des situations de grande précarité, parce que même si elles ne sont pas experts scientifiques, elles sont quand même spécialistes de leurs conditions, de leur situation. Et là, ça pourrait être intéressant aussi d'avoir des personnes qui parlent, si elles le souhaitent évidemment, de leur parcours, ou peut-être des anciens détenus, ou quelque chose comme ça. Et ces personnes-là, on les entend assez peu.
Oui, et
oui, l'avenir.
En fait, si, il y a quand même des vidéos, justement, alors je n'ai plus le nom, mais je sais qu'il y a un Français qui a fait une vidéo sur comment est-ce qu'il a réussi sa plus belle évasion. Et donc, en fait, c'est un détenu qui a essayé de s'évader plusieurs fois. Et finalement, à la fin, il a petit à petit, il n'a pas réussi. Donc, ses années de prison se sont prolongées. Et puis, petit à petit, dans le milieu carcéral, il a commencé à écrire des livres. Et ses livres ont été publiés. Et donc, en fait, il est sorti de prison parce qu'il était devenu un auteur reconnu. Donc, et cette vidéo, je la trouve super intéressante parce que oui, non, ce n'est pas de la science, mais c'est donner de l'espoir aussi et puis montrer que tout n'est pas déjà figé, puisqu'on ne s'attendait pas à ce genre de choses. Et quand on parle du milieu carcéral, on a aussi on a certains événements TEDx qui n'ont pas lieu comme nous dans une grande salle. Nous, ce sera la salle Télème, mais dans une grande salle, un auditorium. Mais on a des TEDx qui se font dans des prisons, où là, c'est une équipe d'organisation, des volontaires, des bénévoles qui vont se dire, je vais redonner de l'espoir, je vais créer du lien dans des milieux qui n'en ont pas. Et où on pense que c'est impossible d'en avoir.
Et puis, on avait eu, le talk d'un monsieur qui était en fauteuil roulant et qui était devenu maire d'une ville bretonne. Et il expliquait tout son parcours, justement, et les difficultés qu'il avait eues pour accéder jusqu'à ce poste-là au municipal. Et tout ce qu'il avait pu faire ensuite dans la ville pour faire changer les mentalités, pour rendre accessible aux personnes réduites.
Eh bien, tant mieux, voilà. Chers auditeurs qui vous posiez la question de est-ce que c'est que des scientifiques ou des spécialistes, eh bien non. Voilà, vous savez tout. Alors, mesdames, on rappelle que votre TEDx Université de Tours se tient le 15 février 2020. Le thème sera la puissance. Et c'est où, c'est à quelle heure et comment on fait pour être sûr d'avoir une place?
Communication.
Alors, c'est à la salle Télème, à l'université de Tours, rue des Tanneurs. C'est à partir de 13h30 et jusqu'à 19h. Pour avoir une place, il n'y a rien de plus simple. Vous allez sur le site, vous avez deux billets différents, un pour les étudiants et un autre pour les personnes comme moi qui ne le sont plus. tout simplement, vous réservez votre place et après, au fur et à mesure que l'événement avance, vous recevrez différentes informations sur l'événement, sur les speakers, sur les expériences également, et puis aussi quelques informations sur les bénévoles, sur l'équipe, tout simplement.
Et puis on a un tarif préférentiel aussi, on a quelques places, on a un partenariat avec le passeport culturel étudiant, et donc pour les personnes qui ont ce passeport, nous avons quelques places à tarif réduit, oui. Donc ils partent vite et...
Il faut se dépêcher.
Voilà,
c'est le message.
Alors oui, c'est terre à terre, mais puisqu'on parle de sous, elles sont à quel prix ces places?
Alors celles justement qui bénéficient du partenariat avec le passeport culturel étudiant sont à 17 euros. Et sans passeport culturel étudiant, elles sont à 25 euros.
Et pour les non-étudiants ?
Elles sont à 25 euros.
Voilà. Ça reste raisonnable. Eh bien, merci. Et est-ce que vous voulez redonner une dernière fois les sites internet et autres réseaux sociaux sur lesquels on peut retrouver toutes vos informations ?
Alors, oui, bien sûr. Vous avez le site internet TEDx Unif Tours. Le blog, exactement la même chose. Et sinon, sur Facebook, sur Instagram, TEDx Unif Tours. Voilà.
Eh bien, grand merci à vous, mesdames Marion, Céline et Léa, de l'appel
merci
à l'idée.
Merci beaucoup.